France Inter.
À la une de ce 13h, une importante panne de courant ce matin dans les Alpes-Maritimes. Deux actes de malveillance selon la police, 160 000 foyers privés d'électricité, notamment dans la ville de Cannes, qui s'apprête malgré tout à dévoiler son palmarès comme prévu à partir de 18h40. L'actualité, c'est aussi l'examen du projet de loi sur l'aide à mourir. Il vient de s'achever à l'Assemblée nationale. Nous y serons. Nous prendrons des nouvelles des taxis qui espèrent bien un recul du gouvernement. Une rencontre est d'ailleurs prévue à 17h aujourd'hui avec plusieurs ministres et François Bayrou. L'intersyndicale des taxis envisage des conséquences dès lundi dans les aéroports de Roissy, d'Orly et aussi durant le tournoi de Roland-Garros. À l'étranger, nous verrons comment l'aide humanitaire arrive peu à peu dans la bande de Gaza. Et moins de 24 heures après la mort de Sebastião Salgado, un témoignage dans ce journal, celui du photographe et artiste JR, qui a connu le photographe franco-brésilien. Il sera notre invité JR dans un instant. Après ce journal, Secret d'Info, magazine d'investigation, Benoît Colomba, sur quel thème ?
Eh bien, nous allons vous révéler des analyses préoccupantes sur la présence d'un dérivé du pétrole dans nos assiettes, dans le lait, le beurre, les œufs ou la viande. Il s'agit de l'hexane, un produit chimique utilisé normalement pour la fabrication de l'huile alimentaire et la nourriture pour le bétail, et dont les dangers pour la santé sont pourtant reconnus.
À tout à l'heure, Benoît. Et puis le temps de ce samedi, Céline Dacosta, les nuages pour le nord, le soleil pour le sud.
Oui, un scénario qu'on connaît bien et qu'on va retrouver cet après-midi avec en prime de faibles averses au nord de la Seine.
Et vos prévisions complètes dans une vingtaine de minutes. À quelques heures de la proclamation de son palmarès, le Festival de Cannes a donc été perturbé ce matin par une importante panne d'électricité qui a touché et qui touche plusieurs communes des Alpes-Maritimes. Deux actes de malveillance selon la gendarmerie, des actes qui ont touché les villes d'Antibes, Grasse et Cannes. 160 000 foyers étaient ce matin privés d'électricité. RTE dit être sur le pont pour tenter de résoudre ce problème. William Delesseux, vous êtes en direct de Cannes, bonjour.
Bonjour Eric.
Eh bien, le palais des festivals fonctionne grâce à ses croupes électrogènes. C'est d'ailleurs l'un des rares îlots de lumière dans cette ville privée de courant.
Ah oui, c'est le seul endroit avec de l'électricité, effectivement, comme quelques très grands hôtels également dotés de générateurs au Palais des Festivals. Il y a quand même eu du flottement ce matin. Les projections ont été perturbées, racontent Louise et Thelma.
Ben, d'un coup, tout s'est arrêté, quoi. Les lumières sont rallumées, il n'y avait plus de film.
On pensait que c'était un happening dans le film.
Les salles ont pu reprendre les projections une dizaine de minutes plus tard autour du palais et dans toute la ville. Rien donc, pas de lumière. Si certains invités avaient besoin d'une robe ou d'un nœud papillon en urgence avant ce soir, eh bien, c'est impossible. Les boutiques de luxe ont baissé le rideau. Les restaurants vont servir au mieux du froid, comme au Key West chez Florent.
Ça va être compliqué sans électricité, à part vous faire un sandwich, mais ça va être très compliqué sinon. Bon, après, on a eu la chance de bien travailler avant quand même, hein. Mais le dernier jour, on aurait bien voulu le faire dans de meilleures conditions, quoi.
Et on peut même pas sortir d'achat, un peu payé.
Bah non, on peut ni retirer, ni payer en carte, ni rien, en fait. Même prendre le train, c'est plus possible.
Et le réseau téléphonique est également perturbé au soleil. Caroline est descendue sur la croisette, faute d'électricité chez elle.
Tout s'est arrêté. La radio d'abord. Voilà. C'est Cannes, ça fait partie des imprévus, c'est très bien comme ça. Les emmerdes, ça tombe jamais le meilleur jour. Vous avez remarqué, chez vous, je sais pas, mais chez moi, toujours.
Les trois générateurs du palais vont permettre d'assurer la cérémonie de clôture ce soir. Pas d'inquiétude, ils ont plus de 24 heures d'autonomie d'après les équipes qui gèrent le lieu. Aucune heure précise de retour à la normale n'a été communiquée par RTE, au mieux dans l'après-midi.
William Delesseux en direct de Cannes avec Raphaël Rousseau pour les moyens techniques. Et je renvoie donc à la soirée spéciale Cannes ce soir sur France Inter dès 18h10 avec nos envoyés spéciaux, dont William Delesseux. Et le palmarès sera dévoilé à partir de 18h40. À l'instant, la fin des débats à l'Assemblée nationale sur la proposition de loi créant le droit à l'aide à mourir. Après une semaine de discussion, le vote solennel est prévu mardi. Eh bien, question ce matin à l'Assemblée autour de l'article 17, cet article qui crée un délit d'entrave, entrave non seulement physique mais aussi verbale. Lise Roosevelt, vous êtes en duplex de l'Assemblée nationale. Les opposants ont dénoncé une menace contre toute parole ou toute critique de l'aide active à mourir.
Oui, le député du Rassemblement National, par ailleurs avocat, Hervé de Lépineau, imagine déjà une multiplication des procès contre les opposants à l'aide à mourir.
Vous allez pratiquer un pilonnage, un harcèlement,
de tous ceux qui voudront continuer à promouvoir les soins palliatifs. C'est une atteinte intolérable à la liberté d'expression et à la liberté de conscience.
Au contraire, répond le député insoumis Adrien Clouet, il faut absolument protéger les soignants et les patients contre ce qu'il appelle des intégristes.
Y aura-t-il demain un droit à l'aide à mourir si jamais certains de vos amis s'autorisent à venir obstruer, bloquer les lieux où s'exerce ce droit ? Si on les autorise à menacer les soignantes et les soignants.
Les opposants au délit d'entrave craignent qu'il empêche toute réflexion. Un proche ou un soignant n'osera pas discuter avec le malade de peur d'être sanctionné. Mais le rapporteur général du texte, le député apparenté Modem, Olivier Falorni, a voulu rassurer les parlementaires dans un long plaidoyer.
L'article 17 ne contraint rien chez ceux dont l'opinion, je dirais même la conviction intime, s'oppose à l'aide à mourir. Si ce n'est celui de ne pas faire aux autres ce qu'ils ne voudraient pas qu'on leur fasse, réduire leur propre liberté.
Les députés ont finalement adopté ce délit d'entrave en doublant même la peine, 2 ans d'emprisonnement et 30 000 euros d'amende.
Lise Roosevelt au Palais Bourbon. François Bayrou a publié ce matin sur son site internet l'ensemble des pièces qu'il avait produites lors de son audition à l'Assemblée nationale sur l'affaire Betaram. Des pièces qui, selon lui, prouvent l'inanité des accusations qui le visent dans ce dossier. Les taxis, ils espèrent bien un recul du gouvernement. À 17h d'ailleurs aujourd'hui, ils vont rencontrer le ministre des Transports, plusieurs ministres et aussi François Bayrou dans le rôle d'arbitre. Depuis mardi, les taxis sont mobilisés, notamment contre la modification des tarifs concernant le transport sanitaire. Bonjour Cécile Bidot.
Bonjour.
Si le projet n'est pas retiré, eh bien l'intersyndicale menace de durcir le ton dès lundi.
Et oui, après bientôt une semaine de manifestations, blocages, opération escargot à Paris, mais aussi à Marseille et à Pau, les taxis ont prolongé leur préavis de grève jusqu'à la fin du mois. Ils rejettent en bloc la nouvelle convention qui doit entrer en vigueur le 1er octobre. Elle prévoit un tarif unifié sur tout le territoire et le développement du transport partagé, plusieurs patients dans le même taxi. Aujourd'hui, les termes de l'équation sont simples. Si cette convention n'est pas retirée, les grévistes passeront à la vitesse supérieure. Emmanuelle Cordier, la présidente de la Fédération nationale des taxis sur France Info ce matin.
À partir de lundi, voici Charles de Gaulle et Orly vont être bloqués par les taxis. Et puis, nous allons aussi nous occuper de Roland-Garros. Nous sommes relativement mobiles et nous sommes relativement ingénieux quand il s'agit de récupérer notre dû.
Les taxis mettent donc la pression avant la réunion de cette fin d'après-midi. Elle sera ouverte par François Bayrou, mais aura lieu au ministère des Transports. Le gouvernement vient aussi en force puisque les ministres de la Santé et des Comptes Publics seront également présents. Pour l'intersyndicale des taxis, c'est un signe envoyé par le Premier ministre. Mettre tout le monde autour de la table pour arrêter de se renvoyer la balle et trouver un accord.
Et la rencontre est prévue à partir de 17h au ministère des Transports. Merci Cécile Bidot. Un nouveau patron à la tête du CNES, l'ancien président Philippe Baptiste étant devenu ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, le nouveau président du Centre national d'études spatiales revient donc au haut fonctionnaire François Jacques. C'est un décret paru ce matin au journal officiel. Dans les Côtes d'Armor, lui, il est accusé d'avoir violé ses propres enfants. Un homme de 35 ans est mis en examen, placé en détention provisoire. Sa compagne, qui est aussi la mère des enfants, doit répondre de non-dénonciation de crimes sur mineurs. Les 3 enfants du couple, de 2 jusqu'à 13 ans, ont été confiés à l'aide sociale à l'enfance.
France Inter, le journal de 13h. Éric Delvaux.
À Gaza, depuis la levée partielle du blocus, le réapprovisionnement reprend peu à peu. Farine, médicaments, carburant. 83 camions sont entrés hier, selon les informations diffusées par Israël. 83 camions seulement, contre 600 par jour pendant le cessez-le-feu. Mais c'est un mécanisme provisoire, prévient Israël. Israël qui envisage une prochaine procédure de distribution de denrées de première nécessité. Amira Swalem, vous êtes à Ramallah, Cisjordanie, les journalistes étrangers n'ont pas accès à la bande de Gaza. Et les médias, les réseaux sociaux témoignent de la cohue en ce moment. Cohue lors des rares distributions.
Dans la cohue, les mains tendues et les traits tirés, des Gazaouis visiblement affamés tentent d'attraper des galettes de pain. Les organisateurs dépassés sont contraints de distribuer les rations à la volée. Face au tollé international, Israël a dû se résoudre à laisser passer quelques camions. Tel Aviv prévoit de mettre en place un système alternatif de distribution, en partenariat avec les Américains et les Émiratis notamment. Ces derniers ont promis une première aide pouvant subvenir aux besoins de 15 000 personnes. Israël accuse le Hamas de détourner l'aide humanitaire fournie à Gaza et d'en tirer des revenus sans pour autant en apporter de preuves à ce stade. Externalisé à des opérateurs privés et armés, le nouveau plan prévoit l'ouverture de 4 centres de distribution. Le contrôle biométrique des identités opéré, les Palestiniens pourront alors accéder à des rations alimentaires. Les plus grandes ONG humanitaires ont refusé de collaborer avec ce nouveau système, craignant qu'il ne serve en réalité d'appât pour déplacer la population avant une possible déportation vers des pays tiers.
Amira Souilem, correspondante de France Inter en Cisjordanie. Beaucoup de questions ce matin encore à Hambourg, où l'attaque au couteau hier en début de soirée à la gare a fait 18 blessés, dont 4 dans un état grave. La suspecte de 39 ans en nationalité allemande présenterait des troubles psychiques, dit ce matin la police. Les motifs de son geste restent encore à déterminer. Ce sera le rendez-vous rugby de l'après-midi et même de la journée, 15h45, la finale de la Champions Cup, la Coupe d'Europe de rugby à Cardiff. Les Anglais de Northampton face aux Français de l'Union Bordeaux-Bègles-UBB. Première finale continentale pour l'UBB, en quête donc d'un premier grand titre. Vincent Pellegrini, vous êtes aux abords du Principality Stadium de Cardiff et les supporters commencent à arriver.
Oui, effectivement, Eric, hein, ce stade qui est vraiment planté au milieu de la ville et les supporters des deux équipes qui s'agglutinent autour de ce stade. Il y aura 60 000 spectateurs pour assister à cette finale très attendue. Alors, il y aura beaucoup plus d'Anglais que de Bordelais. Hein, Northampton, c'est pas très loin de Cardiff, mais 3 000 Bordelais qui ont fait quand même le déplacement pour assister à cette finale qui peut être historique, vous l'avez dit, hein, pour l'UBB, première finale de Coupe d'Europe. Ce club donc en quête de ce titre. On s'attend à un match spectaculaire entre deux équipes qui ont un jeu très offensif, qui ont brillé en demi-finale. L'UBB a éliminé le tenant du titre, le Stade Toulousain. Northampton a créé l'exploit de s'imposer à Dublin face au Leinster. Deux équipes avec notamment deux lignes de trois quarts très spectaculaires. On s'attend à une belle finale et peut-être au bout donc ce premier titre pour l'UBB.
Vincent Pellegrini en direct de Cardiff. 15h45 donc la finale de la Champions League, Northampton face à l'Union Bordeaux-Bègles. Au Brésil, son visage est ce matin à la une de tous les journaux, Sebastião Salgado. Le photographe franco-brésilien est mort hier. Le président Lula da Silva rend hommage à un grand témoin qui avait parcouru la planète pour photographier la misère d'abord et puis la splendeur du monde ensuite. La réaction à présent d'un autre photographe, artiste et réalisateur français. Bonjour JR.
Bonjour.
Vous aviez rencontré plusieurs fois Sebastião Salgado. Que retiendrez-vous de lui ?
Je retiendrai que c'était un précurseur de la cause sociale et un précurseur de l'environnement. Un homme qui menait ses engagements à fond. Et je l'avais rencontré parce qu'il devait préparer une de ses conférences TED qu'il devait faire aux États-Unis. Il était venu me voir pour me demander conseil. Et en fait, quand il m'a partagé son histoire, il avait déjà tout dans ses mots, c'était incroyable. S'il disait qu'il s'était pas rendu compte à quel point son travail sur les questions sociales l'avait impacté et qu'à un moment, il n'arrivait plus à produire son travail et qu'il n'avait même plus de semences. Et en fait, c'est là, c'est à ce moment-là qu'il a fait son retour vers la terre.
C'était après avoir passé plusieurs semaines au Rwanda, après avoir filmé la noirceur, la misère du monde, il s'est tourné ensuite effectivement vers la nature, vers le beau. Comment est-ce que vous comprenez cette démarche, justement ?
Moi, ces images m'avaient beaucoup marqué. Je pense que il a vu les ténèbres dans le monde et je pense que il nous en a rendu des images qui ont marqué, qui ont éveillé des consciences, les personnes sur des sujets des fois qu'on connaissait pas ou peu. Et ensuite, son retour vers le Brésil et vers ses terres lui a permis de se recharger, de recharger la terre qu'il avait vu grandir. Et c'est incroyable ce qu'il a réussi à faire avec sa femme et sa famille là-bas.
Et en allant planter des millions d'arbres avec d'autres pour reboiser l'Amazonie. Son parcours de globe-trotteur, ses photos en noir et blanc, de corps, de visage, il y a des passerelles entre vous. Comment Salgado a-t-il inspiré votre propre travail ?
En fait, je pense qu'on faisait des travaux très différents. On avait un grand respect l'un pour l'autre. Je crois que pour moi, ces clichés m'intimidaient presque comme s'il avait découvert d'autres mondes que j'avais pas encore vus. Des mondes assez choquants, des mondes où on se demande comment il s'est retrouvé dans ces situations-là. Donc c'était une autre approche.
Ouais. En 2008, au Brésil, à Rio, vous aviez recouvert les murs d'une favela d'immenses photos de visages et de regards de femmes. Est-ce que le Brésilien Salgado avait commenté ce travail ?
Oui, il avait beaucoup de tendresse pour mon travail, pour ma démarche. Et quand il était venu me voir à l'atelier, à mon atelier à Paris, on avait beaucoup parlé. Et on s'était vu dans plusieurs endroits dans le monde. Mais j'avais aussi été voir à son atelier à Paris. C'était quelqu'un qui avait une très belle énergie en comprenant pourquoi il a réussi à entrer dans le cœur de tous ces gens qu'il a rencontrés, même dans les plus grands bas-fonds du monde. Il avait comme ça cette connexion avec les gens et ce grand sourire qui lançait de si belles énergies, c'était très touchant.
Eh bien, on gardera ce sourire que vous commentez. Merci beaucoup, JR. Merci de cet hommage que vous rendez sur France Inter au photographe franco-brésilien Sebastião Salgado, qui est donc mort hier. Il avait 81 ans. Le livre Inter, il sera décerné le 1er juin et depuis une semaine à l'antenne dans le journal de 13h, Eva Bétan propose une rencontre avec l'une des 10 auteurs et autrices. Aujourd'hui l'écrivaine Emma Becker pour son livre en compétition Le Mal Joli, paru chez Albin Michel. Un amour adultère, une passion et aussi des dommages collatéraux. Emma Becker avec Eva Bétan.
Cela aurait dû n'être qu'une aventure. Elle, avec un écrivain de droite, avec un nom à particule de surcroît, pensez donc. Et c'est devenu une passion, un poison du cerveau, dit-elle, alors qu'elle a un mari et de jeunes enfants. L'héroïne s'appelle Emma Becker et elle ne s'épargne pas. Certes, les élans du cœur et du corps, ce sont 15 kilos perdus, cette impulsion créatrice, car elle écrit en même temps qu'elle vit cette passion, mais c'est aussi avoir la tête ailleurs quand on est avec ses enfants, c'est mentir, s'absenter et les laisser, avant peut-être de fracasser la famille et leur vie en s'en allant. Roman d'amour et quasi-roman catastrophe, comme on dirait film catastrophe, on en est là quand on est pris par la passion, Emma Becker ?
Quand on est pris dans la passion et qu'on ne le peut pas, que notre vie n'est pas construite pour que cette histoire d'amour ait une place, vous développez presque une forme d'allergie, enfin de nausée par rapport à votre vie d'avant, entre guillemets, parce que la seule chose qui vous manque et la seule chose qui compte lorsque vous tombez amoureuse, c'est cette personne qui n'est pas là, et les enfants, le mari. Tout cela devient un obstacle à cet amour que vous sentez pousser en vous et qui enlève sa saveur à absolument tout.
Je voudrais qu'on écoute un extrait. Discussion avec une amie, page 165. On dirait brusquement qu'il n'y a plus aucun débat possible. La baise, les effusions, le souffle coupé, d'accord. Mais et les enfants ? Ils sont petits encore. Il faut bien réfléchir. Les enfants. A-t-on pensé aux enfants ? Parce que c'est ça le péché ultime. Parvenir à les oublier rien qu'une seconde. Le monde évolue et le monde ne change pas.
Oui, alors effectivement, les enfants devraient encore aujourd'hui être considérés comme la partie la plus importante de la vie d'une femme. Et c'est vrai que nous-mêmes, nous sommes éduqués dans cette idée-là. Moi, quand j'ai eu des enfants, mine de rien, j'étais persuadée que mon plus grand rôle commençait maintenant. Mais je pense que n'importe quelle femme qui devient mère se rend compte aussi que ça n'est pas toujours cette sensation d'être complète qu'on nous promettait. Parfois, c'est aussi une sensation d'oppression, de manque de temps, de frustration. Parfois, c'est la sensation d'avoir fait un choix qui nous empêche d'en faire tout un tas d'autres. Donc, il y a forcément des moments, comme ce moment de passion, où on se demande si on n'a pas eu un peu les yeux plus gros que le ventre.
Quand on est Emma Becker, qu'on a déjà écrit plusieurs livres, est-ce que c'est une quasi-obligation qu'il y ait dans votre livre des scènes de sexe très explicites ?
Non, c'est pas une obligation. C'est un sujet qui me plaît, qui me fascine, parce qu'il me semble que quand on parle de sexe, on ne parle évidemment pas que de ça. Le sexe n'est jamais qu'une tentative de rapprocher les êtres d'une manière ou d'une autre, d'une manière parfois d'ailleurs assez grotesque. Ce regard que j'essaie de poser sur l'intériorité des femmes, je trouve ça très important.
Vous dites, c'est au départ, écrire en même temps qu'on vit une passion, ce que vous faites, ça vous donne un élan créateur.
Quand cette histoire commence, immédiatement se produit en moi ce déclic de me dire, si j'écris un livre sur ce sujet, alors quelque part ça me donne l'autorisation de vivre cette histoire. Si j'ai produit ça, alors ce que j'ai fait n'est pas immoral, puisque j'en ai tiré cet objet qu'on appelle un livre, qui est un témoignage.
Le Mal Joli, livre d'Emma Becker, en lice pour le prix du livre Inter. La proclamation est prévue le lundi 2 juin dans la matinale de France Inter. Le temps.
La météo avec le baume Hydra Défense Aquiléine des laboratoires Acepta. Le soin hydratant 24 heures des pieds secs en pharmacie et parapharmacie. À
Aquiline, nous, c'est le pied.
Bonjour Céline Dacosta.
Bonjour Eric, bonjour à tous.
La grisaille est en train de gagner du terrain sur la moitié nord.
Oui, parce que la perturbation arrivée ce matin sur les bords de Manche rentre un petit peu plus dans les terres. Avec elle, on a de faibles averses, alors souvent sous forme de crachins, entre la Bretagne, la Normandie, l'Île-de-France, les Hauts-de-France et le nord de la Bourgogne. Pour les autres régions, au-dessus d'une ligne Vendée-Franche-Comté, là le ciel sera bien nuageux mais encore sec. Quand sur la moitié sud, à part quelques passages nuageux un petit peu plus importants que ce matin, ce sera encore du beau temps avec un petit peu de mistral. Les deux tramontanes près de la Méditerranée et puis toujours ce risque d'averse entre les Alpes-Maritimes et le relief corse.
Et pour les températures?
Alors c'est plutôt stationnaire cet après-midi. On gagne même quelques degrés par endroit. On se rapproche doucement des normales de saison. Une moyenne qui ira de 16 à 22 degrés pour la moitié nord au meilleur de la journée. C'est un petit peu plus chaud sur la moitié sud avec 19 à 25 degrés.
Céline Dacosta.